parole de Dieu, elle est vraiment inspirée pour ma vie. Elle est vraiment puissante parce que c'est pour notre esprit, ça nous permet vraiment de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi vraiment une lumière. Donc, en fait, je ne sais pas quand vous avez, si vous connaissez votre plat préféré, imaginez votre plat préféré. Quand vous voulez manger ce plat, vous ne mangez pas ce plat dans le désordre. Vous ne mangez pas ce plat quand vous êtes en train de marcher. Attends, vous arrangez tout. Vous vous rassurez que tout est bien parce que vous voulez déguster ce plat. Vous voulez en fait avoir cette expérience. Et c'est aussi similaire avec la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, quand vous décortiquez la parole, c'est comme si votre esprit est tellement excité par rapport à cette parole. Elle est vraiment délicieuse. La parole de Dieu est vraiment délicieuse. Et remercie le Seigneur pour cela. D'abord, quand on commence, alors je vais prier. Je vais demander au Saint-Esprit qui me conduise et qui ouvre aussi le cœur de ceux qui écoutent. Car si mon intelligence prêche, ça n'aura pas vraiment de résultat, mais c'est le Saint-Esprit qui nous reverse et qui a de Jésus-Christ pour son peuple. Saint-Esprit, t'invite, s'il te plaît, viens prendre contrôle. Utilise-moi comme un vaisseau. Utilise ma bouche pour révéler les mystères, pour révéler la parole que Jésus-Christ a pour son peuple en ces moments. Viens, qu'elle soit parlée de puissance, Seigneur. Nous prenons tous ces moments dans le sang de Jésus-Christ et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans le message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est sur l'importance de Madian. L'importance de Madian. C'est vraiment intéressant le message que le Seigneur nous donne. En fait, ça correspond un peu où je pense la moitié d'entre nous en train d'aller. Et aujourd'hui, c'est par rapport à Madian. Et beaucoup peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que Madian? Et comment on est arrivé à Madian? Ou bien, est-ce que nous sommes déjà à Madian? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et comment faire pour sortir de Madian? C'est quoi Madian? Ah, c'est dans Exode, on va lire ça dans quelques minutes. Mais en fait, Madian, ce n'est pas un lieu pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Donc, si vous n'avez pas encore essayé quelque chose, mais si vous n'avez pas encore, vous êtes toujours à la porte, en fait, ce n'est pas ça. Madian. Madian, c'est une place, en fait, c'est pour ceux qui ont essayé, c'est pour ceux qui avaient même le cœur pour faire quelque chose pour le Seigneur, qui avaient un désir et ça les a poussés à faire des choses. Soit ils ont essayé sans le Seigneur, soit ils ont essayé, ce n'était pas au temps du Seigneur. Et ça, le résultat, c'était l'échec. Ils sont entrés à Madian. Donc, ceux qui se trouvent à Madian, ils avaient essayé, ils avaient la passion de faire les choses, ils avaient la vigueur, ils ont tellement essayé, plusieurs fois, ils étaient bloqués. Certains même étaient désespérés. Certains ont oublié la promesse car ils étaient face à un mur. Certains semblent que les choses n'avance pas. Ils sont dans le désespoir. Et bien aimé, ça me rappelle l'histoire de Moïse. Parce que Moïse est aussi à Madian. Donc, juste un peu un background par rapport à l'histoire de Moïse. Pour ceux qui ont oublié, ou bien pour ceux qui ne connaissent pas, en fait. Quand Israël et toute sa famille sont arrivés en Égypte à cause de la famine, il était environ 70 personnes qui étaient de Canaan pour l'Égypte. Et en ce temps, Joseph était le deuxième, la plus puissante, deuxième personne, la plus puissante de l'Égypte. Parce qu'il avait trouvé faveur aux yeux de Pharaon. Mais après un certain nombre d'années, il y avait un Pharaon qui, en fait, ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas ce que Joseph a fait. Il s'est rendu compte que Israël, les enfants d'Israël, étaient en train de former un peuple qui était plus nombreux et plus puissant. Donc, il est chef, il est pharaon de l'Égypte. Il se rend compte que dans sa patrie, sur son territoire, il y a un peuple qui sont en train de grandir en nombre et qui sont tellement puissants. Et donc, il cherche à empêcher ce peuple de croire. De peur qu'ils se lèvent en guerre contre eux ou qu'ils joignent leurs adversaires. Donc, c'était ça la peur que Pharaon avait. Il a utilisé plusieurs stratégies. Sa stratégie numéro une, c'était en fait d'accélérer les travaux pénibles. Donc, il a accablé les enfants d'Israël avec des travaux difficiles. Ils ont conçu des villes comme Pithom, comme Ramsès. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus il accablait les Israéliens, de plus, ils se multipliaient et croissaient. Donc, cette stratégie ne marchait pas. Stratégie numéro 2. Ils ont forcé les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc, leur vie était vraiment amère. C'était des travaux qui étaient difficiles. L'argile, les briques. Donc, c'était en fait, la Bible décrit ça comme une cruauté. Donc, ce qu'ils faisaient, leur vie était cruel. Vraiment cruel. Cruel. Et il a encore passé au niveau supérieur. Il a aussi demandé aux sages femmes des Hébreux de faire mourir les enfants d'Israël dès qu'ils accouchaient. Donc, si c'était un garçon, il leur a demandé de tuer les garçons. Pour voir sa stratégie. Mais les femmes de Pharaon ont refusé, ont dit non. Elle disait qu'en fait, quand ils arrivaient, avant même qu'ils arrivent, les femmes avaient accouché. Donc voici l'ordre final que Pharaon a donné. Il a dit de jeter dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Qu'on les jette dans le fleuve. On va laisser les filles vivre. Mais il avait tellement peur des Israéliens qu'il a décidé de tuer les petits garçons. Donc tout garçon qui naîtra, on les jette dans le fleuve. Et c'est là maintenant que ça nous conduit à Moïse. Car la mère de Moïse, en fait, elle ne pouvait plus cacher son enfant. Elle a mis son enfant dans une caisse. Elle a déposé son enfant dans le ruisseau au bord du fleuve. Et c'est là maintenant que la fille de Pharaon descendit au fleuve et retrouva l'enfant. Elle prit l'enfant, elle garda l'enfant, elle prit l'enfant comme son fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, qui veut dire « enfant des eaux ». Un enfant qui vient de l'eau. C'est là donc qu'on parle de Moïse. Donc, qu'est-ce que Moïse a en commun avec Madian? Comment, quel est son rapport avec Madian? Si on va dans le verset 11 du chapitre 2, ça dit ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand, il se rendit. En ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leur pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc ici, on voit que Moïse avait grandi. Et ce qui se passe, c'est qu'il avait un désir. Il avait un désir dans son cœur. Il était fils de Pharaon. Il avait accès presque à tout, la nourriture. Il était en fait, il ne se dérangeait. Rien ne lui manquait. Mais il a eu ce désir de repartir à la maison de partir voir ses frères et ses sœurs. Donc Dieu a mis ce désir en lui de repartir à la maison. Et peut-être aussi une chose que Dieu a mis en nous, un désir profond que Dieu a mis à chacun d'entre nous. On veut faire ces choses, comme si ces choses nous dérangent. Si on ne fait pas cela, c'est comme si on n'est pas rassasié. C'est comme si c'est une préoccupation pour Moïse, c'était de rentrer à la maison, était de voir son peuple délivré, était d'être avec son peuple. Et peut-être pour vous, ce n'est pas de rentrer à la maison. Mais quel est ce désir? Quelle est cette place? Mais quelle est cette chose que le Seigneur a mis en vous? Quel est cet appel que le Seigneur vous conduit à travers un désir profond? C'est comme quelque chose qui brûle. Isaïe a dit, oui, Jérémie a dit qu'en fait, qui doit partager la parole, qui ne peut pas s'empêcher de partager la parole, car c'est comme un feu qui brûle en lui, que s'il ne le fait pas, ce feu va brûler, donc il doit le faire. Déjà, le désir que Moïse il savait. Et ce désir, en fait, Dieu veut utiliser cela pour vous conduire à votre appel. Dieu veut utiliser cela pour vous conduire près de lui, pour vous utiliser pour manifester son dessein, le dessein qu'il a pour vous, qu'il a préparé pour manifester le royaume de Dieu dans votre vie et autour de vous. Le verset 12 dit ceci. Et il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ici, on voit à tel point son désir était profond. Et peut-être, je ne pense pas que c'était la première fois qu'il a vu peut-être ses frères et sœurs en train d'être maltraités par les Égyptiens. Peut-être qu'il avait tellement assisté à ça que sa température montait jusqu'à ce qu'il a commis cet acte. Ici, on voit bien que Moïse n'était pas patient. C'est un truc qu'on doit souligner parce que plus tard, on va parler de ça. Ici, Moïse n'était pas patient, il était impatient. Il a pris ses désirs pour partir tuer un Égyptien. Impatient. Son impatience a atteint la maturité et cela s'est transformé en meurtre. Verset 13 à 15 dit ceci. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il s'y retira dans le pays de Madia. Donc c'est ici d'où vient Madia. C'est là où Moïse s'est réfugié. Et c'est la raison pour laquelle Moïse est allé à Madian, c'est qu'il s'est réfugié. Il avait un désir pour libérer son peuple, un désir pour assoupir les souffrances de son peuple qu'il n'a pas pu achever, qu'il n'a pas pu manifester. Cela l'a conduit à Madian. Donc, il a en fait échoué. Donc, il avait tellement essayé, pas de résultat. Il avait les aspirations, peut-être des projets, une vision pour son peuple qui n'a pas abouti, mais plus l'a conduit à Madian. Il était sûrement frustré par rapport à cela. Dans une frustration, jusqu'à ce qu'il tue quelqu'un, il était frustré. Il ne savait pas comment manifester ses désirs. Il ne savait pas comment aider son peuple. Il avait ce désir. Cela conduit à Madian. Et cela aussi a exposé ses faiblesses. Le fait qu'il n'était pas puissant, le fait qu'il était incapable. Donc cela, en fait, à Madian. Donc c'est quoi Madian dans votre vie? Est-ce que cette histoire est un peu similaire à une situation dans votre vie? Ou peut-être vous avez de face à une situation, vous avez tellement essayé, pas de résultat. Vous êtes parti à Madian. Vous avez peut-être abandonné. Vous avez cherché un refuge parce que ça ne marchait pas. Quelle est cette situation? Où vous êtes en fait à Madian, un point de fuite ou un point de repos? Où ne voulez plus avoir à faire cela. Ou un point de retrait. C'est quoi ce Madian? Ou vous êtes en fait en pause, où votre situation, où votre marche spirituelle dans votre destinée, votre marche dans votre destinée est en pause parce que vous avez fait un tour à Madian. Ou ce désir que le Seigneur avait mis en vous s'est refroidi parce que vous êtes cogné contre un mur et maintenant vous êtes à Madian. Bien-aimé, peut-être que vous voyez Madian comme une chute, peut-être le monde va prendre Madian comme une défaite, mais Dieu veut utiliser Madian pour se glorifier. La même manière que Dieu veut utiliser Madian, la vie de Moïse, pour se glorifier, Dieu veut utiliser votre Madian pour se glorifier. Car c'est important qu'on sache, qu'on connaisse le Dieu qu'on sert.
En fait, nous servons un Dieu qui prend ce qui est vileux, qui prend ce qui est détruit, qui prend ce qui est cendre, qui prend ce qui n'a pas de valeur, qui la transforme à une couronne de beauté. Le mot de Madian, c'est cendre qui sont Madian. Dieu voulait transformer une couronne de beauté. Nous servons Dieu en fait, qui prend nos lamentations et les transforme en huile de joie. Alléluia. Nous servons un Dieu qui prend un esprit abattu et l'habille avec un vêtement de louange. Donc si Amadia, vous avez ce centre, vous êtes dans la lamentation, vous êtes dans un esprit abattu, Dieu veut vous donner une couronne de beauté. Dieu veut vous oindre avec l'huile de joie. Et Dieu a un vêtement de louange et de célébration qui vous attend car il vous fait quelque chose. Il veut se glorifier. Donc vous voyez votre Madian comme une situation dans laquelle pas vous, mais Dieu veut se glorifier. Donc comme Moïse, que faire à Madian? Peut-être vous êtes resté trop longtemps. Que faire? Comment sortir? Comment sortir de Madian de la bonne manière? Parce qu'il y a la bonne nouvelle, c'est que quand on entre en Madian sans Dieu, ou bien sans le timing de Dieu, on sort de Madian avec Dieu et avec son timing. On sort de Madian avec Dieu et avec le temps de Dieu. Peut-être vous entrez à Madian parce que vous comptez sur votre propre force. Mais quand vous sortez de Madian, maintenant vous comptez sur le Seigneur. Quand vous sortez de Madian, maintenant vous opérez sur le temps du Seigneur. En sortant de Madian, ici, on sort avec rencontre avec le Seigneur. Donc, où est votre Madian? Localisez votre Madian, c'est dans quel domaine? Ici, voyons voir comment le Seigneur a agi dans la vie de Moïse à Madian. Verset 21 dit ceci. On va parler de Moïse. Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela le nom de Guéchom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Donc, il sentait toujours ce regret. Il était toujours abattu. Jusqu'à ce qu'il donne ce don à son enfant. Il était toujours abattu. Ici, à Madian, vous voyez comment il se focalise sur une destinée naturelle. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas vraiment connecté avec sa destinée spirituelle. Qu'une destinée qui est naturelle. Vous trouvez le travail. Vous avez les voitures. Vous avez une belle maison. Vous avez les bons amis. Vous sortez, vous amusez. Ah, mais c'est une destinée qui est naturelle. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe avec le plan spirituel, avec le plan vraiment que Dieu a fait pour vous? Parce que cette destinée naturelle est là pour accompagner la destinée spirituelle. Mais s'il n'y a même pas de destinée spirituelle, si cette destinée spirituelle est en cause, est en pause, à quoi ça sert? Cette destinée naturelle. Donc, au lieu d'être un acteur, est un spectateur parce que sa destinée spirituelle est en pause. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si votre destinée spirituelle est toujours en pause, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut vous amener hors de Madian. Exode 3, verset 1 à 2. Voici ce qui s'est passé. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, notez qu'en fait, Jésus et à Moïse, ils continuaient ses activités normales. Ils étaient en train de faire le troupeau, ils étaient en train de vraiment se battre dans sa destinée naturelle. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Ici, on parle maintenant de la rencontre avec le Seigneur. Ici, le Seigneur se manifeste. Ici, il y a une visite divine. Il y a maintenant Moïse qui rencontre contre Dieu. Il y a cette rencontre, bien-aimé, pour sortir de Madian, il y a cette rencontre divine. Mais beaucoup peuvent se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a permis cette rencontre? Quels sont les enjeux? Quelles sont les circonstances qui ont permis à cette rencontre divine? Car, quand nous sommes à Madian, la seule manière de sortir, c'est par une intervention divine. Il est impossible de sortir de Madian sans une intervention divine. Mais comment avons-nous ici une face à face avec ce buisson Adam? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment avoir aussi cette expérience du buisson Adam? Comment avoir cette expérience divine qui va nous faire, va nous permettre de sortir de Madian? Car il faut une intervention divine. Il faut la main, il faut que Dieu s'implique dans votre vie, car c'est lui qui va vous faire sortir de Madian. Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les gangas, ce ne sont pas votre intelligence, ce n'est pas le monde. Il faut une intervention divine. Mais si, qu'est-ce qui s'est passé? Comment avoir cette intervention divine? On va rentrer au chapitre 2. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que Dieu n'apparaisse à Moïse. Il n'a pas juste apparu dans l'homme. Il n'a pas juste apparu de nulle part. Il y a quelque chose qui a fait à ce que Dieu apparaisse. En connaissant cette chose, on peut s'y appliquer dans notre vie pour voir cette intervention divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a apparu à Moïse? Chapitre 2, verset 23-25, ça dit ceci. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Quelqu'un dit compassion. En fait, c'est cette compassion. Dieu a eu compassion. Et Dieu a eu compassion, il n'a pas juste regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a eu compassion et il a agi. Il a fait quelque chose. Pourquoi? À cause des enfants d'Israël. On peut se poser une question, qu'est-ce qui est particulier avec les enfants d'Israël? Pourquoi juste eux? Pourquoi il n'a pas eu compassion avec d'autres personnes? Pourquoi juste les enfants d'Israël? Et pourquoi il a aussi agi? Bien-aimé, la raison pour laquelle il a eu compassion, c'était à cause d'une alliance. Il y avait une alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait un lien qui avait été soudé. Il y avait une connexion. Il y avait un lien tangible. Il avait donné sa parole. Donc Dieu pouvait être dans les cieux. Mais ce qui s'est passé avec eux, il y avait une parole qui était décrite, qui était dite sur chacun de ses enfants. Une alliance, un covenant, covenant qui était dit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, par sa compassion, devait agir. Parce qu'il doit honorer sa parole. Il n'est pas un homme ou le fils de l'homme pour se repentir. Donc, Dieu ne ment pas. Il y avait quelque chose qui avait déjà été signé. Abraham avait signé quelque chose. C'est son arrière-grand-père. Il avait fait quelque chose que les enfants ne savaient même pas. Ils n'étaient même pas au courant. Ils étaient dans la souffrance. Et c'est Dieu maintenant qui dit, ces gens-ci ont vraiment compassion, ils souffrent beaucoup. Mais que faire? Oh, il y a un covenant. Il y a une alliance. Une parole qui parle pour eux. Donc ici, la raison pour laquelle il agit, il y avait une base. La base, c'était l'alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'obligation. Obligation. Ça engage en fait Dieu. Donc Dieu lui-même doit agir. Chaque fois que c'est sa parole qu'il dit. Dieu dit qu'en fait, qu'il n'est pas plus grand que sa parole. Non. Il n'est pas plus grand que sa parole. Il y a une obligation à faire. Dieu Tout-Puissant doit faire. Mais une alliance n'est pas suffisante. Parce qu'il y avait cette alliance depuis. Avant qu'ils ne souffrent, l'alliance était là. Qu'ils ont commencé à souffrir, l'alliance était là. Jusqu'à présent, l'alliance était là. Mais pourquoi il y a toujours... Donc là, on a la raison pour laquelle il agit. Il agit à cause de l'alliance. Mais il y a le timing. Pourquoi donc maintenant? Pourquoi à ce moment précis? Pourtant, il y a une prophétie qu'après 400 ans, il devait rentrer. 400 ans était même déjà passé. Il était déjà passé. Pourquoi maintenant? L'alliance n'est pas suffisante. Il y a aussi le timing. Lisons le verset 24. Dieu attendit le gémissement et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ah! Maintenant, on parle bien. Il se souvient. Donc Dieu peut oublier. Ah. Donc Dieu peut oublier. Ils ont dit qu'ils se sont souvenus. Qu'est-ce que ça fait de se souvenir? C'était les cris. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Et là, il s'est souvenu. Oh, en fait, ces gens ont une alliance. Donc tout ce temps avant, c'est comme s'ils n'étaient pas souvenus. Et c'est là que Dieu se souvient. À travers les cris des gémissements. Donc, à travers ces cris, il s'est dit, oh, il y a une alliance avec Abraham. Il s'est souvenu. Donc, Dieu s'est rappelé. Donc, souvent, vous pouvez avoir une alliance avec le Seigneur. Lui ne s'est pas encore souvenu. Il ne s'est pas encore souvenu. Ces gens avaient quitté la terre depuis. On a dit 400 ans. 400 ans étaient déjà passés. Ce sont les cris, en fait, qui ont réveillé Dieu, qui ont fait que Dieu se souvienne. Si la prophétie était annoncée, Dieu avait dit à Abraham qu'il devait partir à l'Égypte pendant 400 ans. C'était à plus de 400 ans. Il y avait l'alliance que tu as fait, la parole que tu as donnée. Donc l'alliance ne suffit pas. L'alliance, c'est la base. L'alliance permet à Dieu d'agir, mais il y a aussi le timing. Quand agir? Ici, c'est quand c'était même presque... C'était tellement élevé. C'était vraiment de la souffrance. C'est là que Dieu a dit, oh, je me souviens. Il y a une alliance. Il s'est souvenu. Et c'est même qu'il y a des cris. Et que c'est tous les cris. Verset 18. Lisons verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et l'enfant d'Israël gémissait encore sous la servitude et poussait des cris. Ces cris que arrachaient la servitude montée jusqu'à Dieu. Mais s'il y avait des cris, il poussait des cris de servitude. Il vivait dans la cruauté. Donc ils étaient tellement maltraités. Ce sont ces cris qui ont pour que Dieu se souvienne. Mais on n'est pas obligé d'arriver à ce niveau. Donc, ici, on se rend compte que ce sont ces cris qui ont fait à ce que Dieu écoute, se souvienne de l'alliance et agisse. Et c'est là maintenant que ça a créé cette atmosphère avec Moïse. Donc Moïse, là, il ne sait même pas. Peut-être qu'il ne priait même pas. Il est tenté de vivre sa vie naturelle. Mais il y avait des millions de personnes qui pleuraient, des millions de personnes qui gémissaient. Et c'est ça qui est parce que Dieu maintenant a cette rencontre avec Moïse. C'est ça. Ils étaient dans la prophétie. Lui, il veut sa vie naturelle. Mais quand on parle des cris, on va prendre un exemple. Si vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, quand Abraham avait fait un enfant avec sa femme, Sarah, l'enfant c'était Isaac. Mais avant que Isaac n'arrive, il avait aussi fait un enfant avec la servante de Sarah, qui était Agar. Donc, il y a eu un enfant avec Agar qui était Ismaël. Donc, un jour, donc, Sarah se lève et dit que Agar et Ismaël doivent quitter la maison sinon ils risquent de prendre l'héritage parce que Ismaël était le premier. Donc, il demande à Abraham de les faire partir. Et là, donc, Abraham consulte Dieu et Dieu dit, en fait, il faut les faire partir, mais je serai avec eux. Donc, Abraham les met d'ailleurs avec un peu la nourriture et tout. Et quand ils sont en train de partir, la nourriture est finie, là, il n'y a plus quelque chose à boire, il n'y a plus quelque chose à manger. Et Agar, donc, se rend compte qu'ils vont bientôt mourir. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Elle prend l'enfant, elle met l'enfant loin d'elle pour qu'elle ne voie pas l'enfant mourir. Elle va se cacher. L'enfant pleure. Elle pleure. Parce que l'enfant est seul. Mais la Bible dit en fait que Dieu a écouté les cris d'Ismaël. Dieu n'a pas dit qu'il a écouté les cris d'Agar. Les cris d'Ismaël, parce que le covenant, parce que cette relation, parce que ce covenant, c'était avec l'enfant d'Abraham. C'était avec l'enfant d'Abraham. Donc, quand il y a ce covenant avec vous, en fait, c'est ça qui permet à Dieu d'agir. C'est ça qui appelle Dieu. Ce covenant, cette alliance, ça concernait Ismaël, la descendance d'Abraham. Donc, c'est quand il a écouté les cris de l'enfant, pas les cris d'Agar. Il n'y a pas une alliance avec Agar. C'est Ismaël qui est concerné. Donc, cette affaire d'alliance, c'est quelque chose de sérieux, car c'est un gage. Dieu lui-même descend, c'est sa parole, c'est ça sur laquelle il s'appuie pour agir, parce qu'il a dit, ne fais rien sans sa parole. Et sa parole ne revient pas tant qu'à exécuter la raison pour laquelle elle était partie. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a appelé à Moïse. Donc, bien aimé, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela veut dire dans votre vie? Comment cela s'applique dans votre vie? Comment avoir cette rencontre divine? Est-ce qu'il faut des millions de personnes qui vont crier pour nous? Ça arrive peut-être pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont des bénédictions de beaucoup d'autres personnes. Et Dieu doit les réveiller. Et c'est temps d'agir. Il y a des gens qui dépendent sur toi. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'on doit attendre les cris de servitude? Qu'on est déjà abattu? Quels sont ces cris qui vont partir vers Dieu? Donc, étant qu'enfant de Dieu, étant chrétien, que devons-nous faire? Comment avoir cette rencontre avec le Seigneur qui va nous permettre de sortir de Madian? Car j'avais cette rencontre, si vous continuez à lire les chapitres 3, 4 et 7, Dieu donne des directives. Ah, on va un peu voir ça plus tard. Dieu donne des directives à Moïse et Moïse sort de Madian avec une destinée, avec une mission, avec une vision. Pourtant, il est entré fuyant Pharaon. Dans la défaite et sans Dieu. Donc, comment sortir de Madian? Quand on voit le format, quand on voit le skeleton, quand on voit le blueprint, le roadmap, les directions, les pas de Moïse. Donc, on parle de la compassion. On s'est terminé avec la compassion. Dieu a compassion pour tout le monde. Dieu a même déjà agi dans la vie de tout. Il a déjà fait. Il a compassion pour tout le monde. Donc là, c'est à checker, on check ça, et la compassion. Maintenant, il faut quelque chose de plus solide. Car ça, pour tout le monde, il pleut sur les mauvais, il pleut sur les bons. Donc, il avait compassion, mais ce qui a permis à Dieu d'agir dans le cas de Moïse, c'était qu'il y avait une alliance. Et dans notre cas, c'est plus cette alliance. Dans notre cas, on a une alliance qui est supérieure à celle que Moïse avait. On est une alliance qui est élevée. Et si on regarde la racine de cette alliance, c'est toujours connecté à la parole que Dieu avait dit à Abraham, en fait. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, bien-aimés, il y a une alliance sur laquelle vous pouvez parler, vous pouvez parler au Seigneur, vous pouvez prier dessus et cela va engager Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Par son sang, par son sang, par son sang. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance nouvelle. Quand on parle de circoncision, c'est même pas la circoncision d'avant, mais peut-être la circoncision du corps par le Saint-Esprit. Parce que maintenant, à travers Jésus-Christ, ceux qui sont repentis, accepter Jésus-Christ, pas juste accepter Jésus-Christ, ceux qui sont repentis et accepter Jésus-Christ, maintenant, le sang de Jésus-Christ les lave. Maintenant, je dis que Jésus-Christ est en eux, et en cette personne, et ils sont en Jésus-Christ. Jusqu'à la fin. Maintenant, je veux dire qu'ils ont maintenant la parole dit qu'à travers cette alliance, par le sang de Jésus, Jésus-Christ s'est veillé, Dieu, il était crucifié pour chacun d'entre nous. Donc, quand j'acceptons cela, ce qui a été fait à la croix, le fait que son sang a été versé, ça nous donne maintenant accès au Père. Ça nous donne maintenant accès pour dire qu'on va maintenant là-bas sans peur, on va maintenant là-bas avec courage par le sang de Jésus-Christ. Peut-être que vous cherchez à voir la face de Dieu, vous cherchez à agir, vous cherchez à parler à Dieu sur le, par rapport à votre nom de famille, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre nom des ancêtres, ça ne passe pas. Mais quand vous venez dans le sang de Jésus, vous avez accès direct, accès direct. Dieu vous écoute, pas à cause de vous, pas à cause de vous, c'est pas vous, mais à cause de Jésus-Christ, parce que c'est ce qu'il a fait à la croix. Donc, par son sang, il y a cette alliance. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Donc, quand vous partez devant le Père, c'est plus comme un servant, c'est pas comme une serveuse, c'est pas comme... ce n'est plus comme, oh Seigneur éternel. La Bible dit en fait que l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous crie Abba Father, Abba Père. Donc, c'est un Père chéri, c'est un, vous partez. C'est ça l'accès. Vous partez maintenant sur le Père comme enfant. Donc, il y a une alliance qui est établie. L'alliance par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez rappeler cela à Dieu. L'alliance est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu doit se rappeler de cela. Dieu doit se rappeler de cette alliance. Ce n'est pas juste tout. Ce n'est pas juste l'alliance. Il doit avoir un rappel parce que les enfants d'Israël, ils étaient en train de souffrir pendant des années, mais Dieu n'a rien fait. Et qu'il y avait des cris, c'est là qu'il s'est rappelé. Est-ce que Dieu se rappelle de votre alliance avec lui? Non, vous avez cette alliance, vous êtes chrétien, baptisé, vous avez croyé, mais est-ce qu'il se rappelle de cette alliance? Est-ce que vous l'avez rappelé? Est-ce que vous avez rappelé que voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a écrit par rapport à cette alliance, voici les clauses de l'alliance, ce que lui-même il a dit, donc à cause de cela, il se rappelle, il agit. Parce que vous ne pouvez pas passer par des cris. Vous ne pouvez pas partir par des souffrances avant que Dieu se rappelle. Il y a un accès qu'on nous a donné. Il y a un accès qui nous permet de rappeler le Seigneur. C'est pas la prière. C'est pas des paroles. Je veux qu'il dit en fait que vous n'avez encore rien demandé au Père. Mais quand vous allez demander au Père en son nom, au nom de Jésus-Christ, il va vous donner. Donc, par la prière, à travers le sang de Jésus-Christ, basé sur l'alliance du sang de Jésus-Christ, vous pouvez rappeler ce que votre alliance dit, et Dieu va se rappeler. Et Dieu va maintenant écouter. Et Dieu va maintenant écouter. On parle de prières sans cesse. Si vous lisez Luc 18, on dit, mais ce que Dieu a justifié, est-ce qu'il ne va pas exaucer les prières promptement? Lisez Luc 18, verset 1. Est-ce qu'il ne va pas exaucer les prières promptement? Et regardez ce que Dieu, regardez ce que la parole de Dieu, Isaïe 43, verset 27. Disons, commençons verset 26. Ça dit ceci. Verset 26, Isaïe. Fais-moi souvenir. Plaidons ensemble. Raconte-toi-même afin que tu sois justifié. Et si Dieu dit fais-moi souvenir, donc ce n'est pas quelque chose d'automatique, bien-aimé. Ce n'est pas que vous avez accepté Jésus une fois et après c'est fini. Dieu veut que vous lui rappeliez, vous lui rappelez ce qu'il a dit, vous lui rappelez des clauses, de ce qui est écrit dans l'alliance, vous lui rappelez cela. Il dit fais-moi souvenir, faisons souvenir Dieu. Il dit plaidons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'entre vous dit qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce, dis-moi ce que j'ai dit, rappelle-moi. Il dit raconte-toi-même. Donc, bien-aimé, Dieu ici vous engage. Il veut que vous parliez, il veut que vous lui dites, il veut que vous lui rappelez. Il dit raconte-toi-même. La question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous dites à Dieu et sur quelle base? Qu'est-ce que vous dites à Dieu et sur quelle base? Pour Moïse, les millions d'Israéliens avaient des cris au Seigneur de souffrance sur la base de l'alliance qu'il y avait avec Abraham. Et pour nous chrétiens, on doit plaider ce que Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu sur notre vie, à travers ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha, à travers le sang de Jésus-Christ, sur le sang comme fondation, par des prières et par des supplications. Et c'est là qu'on va inviter maintenant Dieu dans notre matière. C'est là maintenant qu'on aura cette rencontre avec le Seigneur dans notre vie. C'est là qu'il va nous équiper, là qu'il va nous donner direction, là qu'il va nous conduire, là qu'il va nous faire sortir de Madian. En savant, en vivant, en que nous avons une alliance qui est basée sur le sang de Jésus-Christ. Et que nous rappelons au Seigneur sa promesse. Mais quelles sont ses promesses? Il y a tellement de promesses dans le sang de Jésus-Christ. Tellement de promesses. Vous êtes choisi. Il y a le demander et vous allez recevoir. Et vous êtes béni avec toutes sortes de bénédictions de Dieu Saint-Christ. Le Saint-Esprit est à vous. Il vous conduira. Il vous enseignera. Il vous dirigera. Il y a les dons de l'Esprit. Il a mis son amour à nous. Il y a tellement de promesses en Jésus-Christ. C'est quoi votre matière? Et trouver ce qu'il dit par rapport à cette situation étant fondé sur le sang de Jésus-Christ, à travers la prière, rappelez notre Seigneur ce qu'il a dit. Rappelez notre Seigneur ce qu'il a dit. On va prendre encore notre exemple rapidement, on ne va pas lire, bien aimé. Ça, c'est aussi l'exemple des disciples. Avant que les disciples n'entrent, avant la résurrection de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont fui. Ils sont repartis dans les anciennes vies, ils sont repartis pécher. Ils ont rencontré une défaite, ils étaient dans la défaite, ils ont ancré dans les Madians. Ils ne pouvaient plus avancer. Destinée spirituelle, avortée, annulée. Similaire par rapport à Moïse, ils ne pouvaient plus opérer. Les destinées spirituelles étaient arrêtées, maintenant ils fonctionnaient dans les destinées naturelles. Ils sont repartis péché. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et j'ai que de les instructions que allez attendre le Saint-Esprit. Allez avant de rencontrer avant de partir prêcher, avant de repartir, avant de continuer votre destinée, il vous faut une rencontre. Il vous faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Il faut recevoir cette puissance. Ils sont partis à la chambre haute. Ils sont entrés sans puissance. Ils sont entrés toujours dans la défaite. Mais dès qu'ils ont prié par rapport à ce que Jésus-Christ avait dit, par rapport à cette part qui a été rachetée, par rapport, Jésus appelle cela la promesse, que Dieu a fait une promesse. Par rapport à cette promesse, le Saint-Esprit descendu était baptisé. Ils ont pu continuer dans leur destinée. Bien-aimés, quand on est à Madian, on sort baptisé. Il y a un baptême qui se passe. Comme les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, Moïse, il était aussi d'une sorte baptisé parce qu'il est sorti avec la puissance. puissance de Dieu. Il est sorti avec son bâton qui fait des prodiges, qui fait des miracles. À Madian, Seigneur, quand à Madian, le Seigneur nous équipe et qu'on sort de Madian, on sort équipé pour accomplir notre destinée. Moïse à Madian, qui est entré à Madian, il était tellement impatient, mais qu'il est sorti de Madian, tu dis en fait que tu es le plus patient du monde. Il y a cette transformation qui est en train de se faire qu'on est à Madian. Dieu est en train de travailler sur nous à Madian. Donc, sortant de Madian, bien-aimé, on quitte l'échec à la victoire. On entre dans la victoire qu'est Jésus-Christ. Et Dieu se glorifie. Donc, c'est qui vous avez amené à Madian? Ce sera maintenant. Quand vous avez ce face-à-face avec Jésus-Christ, quand vous avez ce face-à-face avec le Seigneur, un sujet de témoignage. Un sujet de témoignage. Dans Madian, Dieu va vous donner la direction, bien-aimé, pour sortir. La direction divine. Dieu va vous équiper. La puissance de Dieu sera sur vous. De la même manière avec les disciples, avec Moïse. Vous allez entrer dans la victoire. Il vous donne une vision, une mission, des directions. Et vous serez maintenant avec lui. Dans votre Madian, invitez le Seigneur sur l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Déclarez ses promesses. Déclarez ses promesses qu'il a pour vous. Et quand vous sortez de Madian, vous sortez équipé. Quand vous sortez de Madian, vous sortez un power. Vous sortez avec puissance. Donc là, Dieu est en train de travailler sur vous. Maintenant, vous savez comment sortir. Vous savez comment avoir cette rencontre avec le Seigneur. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il vous demande de parler. Il vous demande de le rappeler. Il dit, rappelle-moi. Il vous demande, il dit, faites-moi souvenir. Mais bien-aimé, je pense que nous entrons dans un temps où c'est le temps de sortir de Madian. C'est le temps d'avoir cette rencontre. C'est le temps d'avoir ce baptême. C'est le temps de sortir équipé. C'est le temps de sortir avec une vision pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Que la manière dont tu es entré, cela sera maintenant un sujet de témoignage pour la gloire du Seigneur. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.